Et bonsoir et bienvenue au 102.2 sur RadioCanu.org dans la causerie avec ce soir à la technique, comme vous avez pu l'entendre, Jean-Yves.
Bonsoir, et comme vous avez pu l'entendre, enfin pas à la technique, on va régler nos comptes direct d'entrée et on fait un bisou à Clara qui n'est pas là et voilà.
Et on espère qu'elle reviendra vite.
C'est tout à fait.
Si ce n'est quand elle sera en vacances, qu'elle ne sera pas là non plus. Mais ça, on peut pas lui en vouloir quand même. Hein. C'est pas la causerie qu'on va priver les gens de vacances. Une causerie qui démarre avec une mauvaise nouvelle. Hein. Donc, juste je voulais le placer avant qu'on démarre. L'Irak vient de décider de pénaliser l'homosexualité et la transidentité de 15 ans de prison minimum. Et la peine peut aller jusqu'à la peine de mort si on estime que les mœurs vont à contradiction avec les coutumes du pays. Voilà. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça montre que la vague réactionnaire continue et qu'il va falloir commencer à se poser de sacrées questions sur la combattre réellement et pas juste en disant c'est pas bien. Voilà. On va démarrer cette émission avec justement un petit peu d'autorité, oui. Parce qu'on a besoin d'autorité. Et donc, Jean-Yves, il a décidé de vous parler d'autorité.
Est-ce que le mot est bien passé ? Autorité. Nous allons parler autorité. Alors oui,
je précise que j'étais au second degré.
Oui, évidemment. Enfin, j'ose espérer que les auditeurs et auditrices l'auront compris. Alors ce soir, ouais, j'ai eu envie de causer de Gabriel Attal, de son appel à un sursaut d'autorité pour lutter contre les violences des mineurs, de son plan pour remettre, je cite, sur le droit chemin les élèves à la dérive. Ces déclarations et propositions, elles font suite en fait à ces déclarations précédentes du 30 janvier. Qui pourrait se résumer par, je fais des raccourcis hein, évidemment, mais par « Vive l'autorité et toujours plus d'autorité à laquelle il faut fatalement se soumettre hein ». Parce que c'est super d'être soumis à l'autorité. Parce que soumis sexuellement, c'est pas un souci, mais quand c'est pas...
quand c'est choisi.
C'est tout à fait ça. Okay. La différence est importante. Alors, je vais citer hein, quelques-unes de ces mesures hein, dont il a parlé. Entre le 18 avril, hein, c'était un discours à Viry-Châtillon, et le 22 avril, lors de sa visite médiatique dans un lycée de Nice, enfin un internat d'expérimentation pour les jeunes en difficulté. Alors, avant d'aller plus loin, un petit point vocabulaire quand même. Je me suis dit justement autour de cette notion de groupe social, les jeunes, hein, qui pose déjà des questions évidemment, parce que je vous le dis souvent, enfin, je crois que je l'ai souvent dit dans cette émission, les jeunes, les vieux, les machins, ça dit tout et rien à la fois. Donc, on ne sait pas vraiment de qui on parle quand on dit les jeunes. Hein. Alors si on en revient à Attal, justement, bah, il a été lui à sa nomination dénoncé par certains et certaines pour sa jeunesse. Donc bah oui. C'était un peu un sale jeune, quoi.
De 34 ans. Quand
c'est
même.
Ça. Bah tout comme Macron. Hein. Il était jeune. On a beaucoup appuyé sur sa jeunesse. Alors est-ce qu'on parle d'une notion d'âge quand on parle de jeune? Pas vraiment, mais un peu quand même. Et adulte n'est donc par conséquent pas un gage de non-jeunesse. Mmh, et donc, c'est quand qu'on est vieux, en fait. Et alors, c'est quoi la jeunesse? On sait pas, en fait. En fait, c'est une projection tout à fait personnelle hein, et sociale, sociétale, évidemment, aussi. C'est arbitraire, en fait, quand on parle de la jeunesse. Si on reste dans un propos aussi vague, ben, on y met ce qu'on veut. Mais ce que nous, on veut.
Oui,
donc
ça.
C'est toujours l'auditeur, la personne qui tient le propos, bah, qui va nous donner sa propre définition finalement de ce qu'est la jeunesse ou les jeunes. Hein. Et si on écoute Attal, hein, il parle bah, des élèves à la dérive hein, et des adolescents. Là encore, en fait, c'est des grands groupes, mais ça situe un petit peu mieux les sphères vers lesquelles il voudrait aller. Même si finalement, si on parle d'adolescents, ça fait quand même des millions de personnes.
Hein. Bah oui, c'est ça.
Donc voilà. J'en reviens donc hein, aux déclarations de Mr. Gabriel Attal. Alors je le cite, hein, enfin je le cite, ou en tout cas je mets en avant ses propos. Il souhaite hein, que les élèves se lèvent quand un professeur entre dans la classe. Mais c'est tellement vieille France, tout dans l'apparence, comme si le respect hein, se plaçait à cet endroit, dans une position verticale. Dès que vous êtes debout, ça veut dire que vous êtes respectueux. Pourquoi, comment,
ouais, puis
on ne sait pas.
C'est un vieux fantasme.
Ah ben oui, oui.
C'est le fantasme que si tu fais un truc obligé, ça va. Alors qu'en fait, tout le monde sait que bon, peux te lever, mais t'en avais rien à faire.
Mais oui, en fait, c'est ça. C'est ça je...
T'es obligé de le faire, tu le fais.
Là, encore une fois, ça veut rien dire spécialement, quoi. Alors, ensuite, il veut aussi placer en internat hein, des jeunes avant qu'ils ne tombent, je le cite, dans la délinquance. Alors, avant qu'ils ne tombent dans la délinquance. C'est quoi les repères? C'est quoi les critères? Et donc, le seul moyen d'aider ces jeunes serait de les mettre en internat. Il n'y a pas d'alternative, quoi. C'est soit t'es chez toi et donc tu pars à la dérive, soit on te fout dans un internat. Bon, ben ok. D'ailleurs, je me disais, ça ressemble un petit peu quand même à de l'enfermement préventif, quoi.
Ben, c'est exactement ça.
Il y a quand même un petit goût de... Allez, on vous enferme avant que vous ne fassiez quelque chose.
Ben, c'est une remise au goût du jour de ce que Sarkozy avait mis sur la table à une époque qu'on avait réussi à repousser, notamment par des manifestations, je le rappelle, de justement, comme tu dis, cet enfermement préventif, c'est-à-dire qu'on disait, quand on sent... C'est Sarkozy qui disait, quand on sent qu'un jeune peut basculer, il faut l'enquêter. Cadré, il parlait même d'encadrement
militaire. Des gamins, oui, et puis il parlait même des gamins à 3-4 ans qu'on pouvait déceler.
Oui, tout à fait. Et il parlait qu'il avait même cru à cette espèce de truc complètement surréaliste du gène de la violence.
Oui,
c'est-à-dire,
oui, c'est
qui n'existe pas, je le rappelle.
Non.
Et en fait, on voit que Attal, il est quand même vraiment dans
de droite.
Ça y est, j'ai peu de doutes, mais
il est bon de le rappeler.
Ouais, mais dans les pas de Sarkozy, c'est-à-dire qu'en fait, il reprend le même discours martial qu'avait un Sarkozy, le même positionnement, les mêmes délires de on peut détecter un enfant qui pourrait tomber dans la délinquance. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez fou, quoi.
Ouais. Alors évidemment, hein, il n'y a aucune réponse à toutes ces questions.
Ben non.
Hein. Je rappelle quand même qu'une opération de communication n'a pas vocation à être consistante, hein, monsieur dame. Mais c'est juste un moyen d'envoyer des signaux aux personnes auxquelles on s'adresse, en fait.
Bah, les électeurs potentiels.
C'est ça.
Ce
n'est que ça. Et en même temps, ça engage beaucoup de choses. Alors, il souhaite aussi rappeler à l'ordre les parents défaillants, voire, je le cite aussi, les soumettre à des travaux d'intérêt généraux. En fait, j'ai plusieurs questions là encore. C'est quoi être défaillant, en fait?
Bah oui.
Être dépassé, être débordé. Et je me disais, est-ce que venir en aide... En aide, hein, pas en sanctionnant, mais des parents en galère, est-ce que ce serait pas plus utile que de les rappeler à l'ordre, voire de leur foutre des travaux d'intérêt généraux? Genre, via des aides à la parentalité généralisée, qui seraient accessibles partout, par tout le monde, par tout parent, quel que soit l'âge de leur gosse, parce que...
Bah, l'équité dans l'accès, par exemple, aux crèches. L'équité dans l'accès à l'école, l'équité dans l'accès aux moyens de subsistance.
Ah oui.
Tout bête, quoi.
Bah parce qu'en fait, ces cours de parentalité, c'est aussi, enfin, moi, je me le dis parce que, voilà, enfin, je pense que parents, c'est pas inné, quoi. Enfin, c'est quand les gens vous parlent d'instinct maternel ou paternel.
Fuyez.
C'est des conneries, en fait. Alors, on peut avoir envie d'enfants, etc. Oui, mais ça, pour autant, ça ne va pas vous donner les outils d'absolument, tout comprendre du fonctionnement d'un enfant, des phases de développement, mais même ne serait-ce que de supporter aussi la pression que ça peut être. Et qui plus est, si par exemple, on parle de famille monoparentale, hein, ça arrive aussi.
Ouais, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, parce que là, hier, je crois, ou avant-hier, aux États-Unis, il y a des parents qui ont été condamnés parce que leur fils a fait un assassinat de masse dans une école. Donc ils ont été condamnés, mais pas parce qu'ils auraient fourni l'arme ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout le cas, mais parce qu'ils étaient défaillants en tant que parents. Mais le problème, c'est qu'on peut pas faire porter comme ça, là, tout sur des parents. Les enfants sont aussi un peu autonomes, vous savez, ils réfléchissent, ils ont des neurones, ils font ce qu'ils... Voilà. Et puis des fois, ils font des bêtises. Alors, je prends pas le cas de ce que je viens de dire aux États-Unis, mais des fois ils font des choses. Ça s'appelle aussi être ado. Voilà, c'est vrai. Le terme de défaillant, moi je le trouve non seulement violent, mais surtout c'est un moyen de gommer tout le social. C'est-à-dire, on part du principe que tout le monde serait pareil en France.
Exactement.
C'est pas vrai. Je veux dire, c'est beaucoup plus dur pour une mère célibataire qui travaille à 2 heures de chez elle et qui fait des allers-retours d'élever ses enfants que pour une mère au foyer dans le 16e, aidée par une cuisinière et un majordome. Enfin, je veux dire,
c'est pas pareil, quoi.
Dans Paris 16e, c'est pas la même chose. Donc, à un moment donné, en fait, donner cette espèce d'idée que, en fait, être parent, ce serait là aussi un grand ensemble où tout le monde serait pareil, bah, en fait, c'est une façon habile de gommer les problèmes sociaux et sociétaux. Comme ça, au moins, on dit tout, c'est pas du ressort de l'État, ça. Alors qu'en fait, si, en réalité.
Bah, selon, oui, comme eux, ils voient les choses. Alors, parce qu'effectivement, hein, aider, supporter, tenir face à la mission d'aider un individu en devenir, donc un enfant, un ado, n'est en rien et ne devrait être en rien un truc qu'on répète avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, avec les bagages qu'on a. Et en fait, en tout cas, enfin, je pense qu'on devrait pouvoir être aidé sans être stigmatisé.
Bah, évidemment.
Parce qu'en fait, il n'y a rien d'inné. Encore une fois, il faut le garder à l'esprit. Il n'y a rien d'inné. Ok ? Enfin bref, je continue sur donc, les déclarations d'Attal, hein, évidemment. Donc, faire inscrire aussi une mention dans les dossiers des élèves perturbateurs. Mais ça veut dire quoi, en fait, perturbateur, en fait ? Est-ce que ça veut dire dormir en classe ? Est-ce que ça veut dire chahuter en cours ? Une fois ? 10 fois ? Et puis bon, bah, je pense pas non plus que marquer au fer rouge un dossier d'élève soit quelque chose qui va fondamentalement, à mon avis, l'aider, quoi. Mais là encore, sanction, c'est les maîtres mots d'absolument tout ce qu'a dit Attal, quoi.
Mais dis-moi, c'est le même Attal qui, il y a pas si longtemps que ça, nous expliquait qu'il fallait un droit à l'oubli pour les politiques, et que quelqu'un qui avait été condamné, bah, quand il avait été condamné, il fallait pas que ça reste dans son dossier, et que la vie, elle faisait qu'on pouvait changer. C'est le même, rassure-moi.
C'est possiblement.
Ah oui, d'accord. Non, mais je croyais qu'en fait, oui, d'accord, ce qui s'applique pas à lui-même, il veut l'appliquer aux autres, c'est mieux.
C'est le principe.
Bah, principe de base.
Oui. De faire carrière en politique.
On voit ce parallèle, il est hallucinant. C'est-à-dire, d'un côté, on veut stigmatiser des gamins, oui, des enfants, des ados, alors que lui demande le droit absolu à l'oubli, à tout ça, parce que voilà. Non, mais en fait, à un moment donné, c'est un double discours qui est inacceptable et inentendable. Soit en fait il faut être parfait dès l'enfance, parce que c'est ce qu'il dit, et donc du coup, bah, à ce moment-là, un ministre qui a été condamné, il devrait pas être au gouvernement, un député qui a été condamné, il devrait pas être dans l'hémicycle, point barre. Soit en fait on se dit, bah, on peut faire des erreurs dans sa vie, et je suis plutôt partisan de ça, hein, entre nous, on peut changer dans la vie.
Oui.
Voilà, donc on peut faire des erreurs dans la vie, on a le droit d'oublier, et c'est comme ça. Bah, alors à ce moment-là, ça s'applique aussi aux enfants, aux ados et à ceux qui visent, parce que sinon il y a une incohérence totale.
Ça aussi, je crois que ça fait partie de la vie politique politicienne. Alors il a également d'y réfléchir à la mise en place d'une comparution immédiate à partir de 16 ans. Et là je me dis, c'est super, le déni de justice qui était réservé aux adultes, et ben il le sera aussi pour les jeunes de 16 ans. Et ça, c'est quand même hyper moderne, moi je trouve, quoi.
Donc c'est encore une attaque contre l'ordonnance de 45 sur le droit des enfants, quoi.
Ouais, c'est ça, et je me suis dit justement, la France, patrie des droits humains et du déni de justice. C'est pas mal,
ah, c'est bien.
Ils devraient foutre ça sur leur mairie et toutes ces conneries-là.
Bon, c'est un bon slogan.
Oui.
Liberté, égalité, déni de justice.
Bah, okay. Enfin. Alors, ils souhaitent également ouvrir le débat. Alors, je précise, on rit de tout ça, mais encore une fois...
Mais on rit plutôt que d'en pleurer. Hein.
Oui, le rire est un petit échappatoire, mais qui ne fait pas oublier les réalités dans lesquelles on vit. Hein. Alors, ils souhaitent, ce que je disais, ils souhaitent également ouvrir le débat sur des atténuations à l'excuse de minorité dans les condamnations pénales.
Eh ben
rien que ça.
Comme Sarkozy à l'époque, le même délire, le même. Et on rappelle quand même que la Cour, l'ONU, et notamment le Comité pour les droits de l'enfant, a déjà condamné la France suite à ce que Sarkozy avait mis en place sur le déni de minorité. Donc en fait, on a un Premier ministre qui est en train de nous dire, j'en ai rien à faire d'être classé comme étant finalement vu comme une nation violente vis-à-vis des enfants, parce que c'est ça hein, qui va. En gros, on va le faire. Mais c'est hyper, hyper grave, ça apparaît comme ça anodin, mais c'est extrêmement grave, parce que c'est un pas absolu vers un lâcher prise derrière qui peut aller très très loin, et on a mis quand même des années à construire les droits des enfants. Là on a des gens qui sont en train de les détricoter petit à petit au nom de la l'autorité.
C'est ça. Toujours se rappeler ça, hein. C'est toujours une réaffirmation de l'autorité, hein. Alors on se rend bien compte en fait que le jeune Attal, hyper moderne, en fait n'est qu'un réactionnaire autoritaire qui communiquait que pour et vers les autoritaires et autres réacs de France. Ce n'était que ça la mission, que ça se fasse sur la gueule là des enfants, des ados, etc. Ils en ont, enfin c'est juste voilà, ils voulaient juste parler aux réacs et autres autoritaires de France. Bon, il a choisi les ados. La prochaine fois, rassurez-vous, ça passera sûrement aux réfugiés, et après aux musulmans, et après peut-être les... Ah non, peut-être pas les LGBT.
Non, en ce moment, c'est les Tziganes.
Ouais. Ah oui, c'est ça.
Ah oui, chaque semaine, son
bouc émissaire.
Bouc émissaire. C'est
de tous nos problèmes. Alors, par contre, je me disais, il n'a pas dit un mot, pas un seul. Sur les classes d'école surchargées, est-ce qu'on peut faire court? Est-ce qu'on peut s'attendre réellement d'avoir une attention aux élèves, aux enfants, que sont avant tout les élèves, dans des classes de 25, 30? En fait, si on voudrait un vrai système, vraiment, où on prend en considération l'enfant avec ses difficultés, avec ses points forts, etc., en fait, on ferait des classes de 20 maxi, et peut-être même moins en fait, pour qu'on ait vraiment un espace où chaque enfant pourrait réellement exister, s'épanouir et pas être effacé face à une masse que finalement tu ne peux que aussi gérer par l'autorité.
Il faudra m'expliquer par exemple comment la Finlande, qui est un pays beaucoup moins riche que la France, arrive à avoir des classes de 15 élèves. Voilà. Ouais. C'est un choix en fait, hein. C'est un choix politique.
C'est exactement.
Donc ça a un coût, hein. Personne ne dira le contraire, mais c'est un choix politique.
C'est ça, c'est un choix politique. Rien non plus de la part de Attal, hein, sur le manque de moyens pour le milieu socio-éducatif, des profs aux éducs, de l'école aux centres sociaux, etc. etc. en fait, hein, rien là-dessus. Rien de plus non plus, hein, sur l'exclusion et l'inégalité économique, sociale, culturelle. Bah oui, logique en fait. Tout cela est le fruit de leurs décisions politiques. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied quand même. Hey, ils sont pas complètement abrutis quand même. Faudra pas oublier ça. Ils ont tous fait des grandes écoles qu'il faudra cramer un jour au passage. Rien non plus sur les rapports individuels et collectifs que notre société véhicule en fait, basé sur la domination et donc la soumission. Encore une fois, sur le chacun pour sa gueule, sur la compétition des uns avec les autres, sur le virilisme, qui n'est quoi d'autre si ce n'est une position, une posture autoritaire et de pouvoir, en fait.
Non, mais vas-y, je voulais pas te couper.
Vas-y.
Non, parce que tu parlais de la culture. Moi, je rappelle quand même que dans les coupes budgétaires de Rachida Dati, nouvelle ministre de la Culture, l'une des premières choses qu'elle a attaquées, c'est justement l'accès à la culture gratuit pour les personnes défavorisées. C'est-à-dire qu'elle a enlevé des subventions et des aides, ce qui fait qu'en fait, les organismes qui faisaient ça, ils se retrouvent coincés, parce que quand on n'a pas les moyens de... Voilà, parce qu'à un moment donné, emmener des enfants, par exemple, voir un orchestre, c'est génial, sauf que les gens de l'orchestre, faut les payer, et c'est un peu la logique du truc, même s'il y en a qui le font gratuitement, et je trouve ça aussi très bien. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas faire toujours tout gratuitement, il ne faut pas non plus rêver. Ils le disent. C'est-à-dire qu'un des premiers trucs qu'a sabré Rachida Dati en arrivant sur son budget, c'est justement ce qu'on appelait les pontes culturelles, c'est-à-dire le fait d'aller chercher des gens qui n'ont pas les moyens d'aller voir de la culture par eux-mêmes, parce que c'est cher la culture, il ne faudrait pas arrêter de se mentir. Le cinéma, c'est cher, le théâtre, c'est cher, tout est cher en réalité, globalement, pour les gens qui viennent de milieux populaires ou de milieux pauvres. Et en fait, on brise ça. Et dans le même temps, on dit, c'est ça que je trouve dingue, c'est que j'ai vu Attal là, dans son intervention qui dit, mais comment ça se fait que tu parles comme ça? En fait, y a une sorte de délire absolu de se dire, on enlève en fait tout moyen d'aller se cultiver pour les gens, et après on leur demande d'être cultivés. C'est une aberration totale. Et en fait, on voit bien que oui, comme tu dis, c'est des décisions politiques et qu'elles ont un sens, et qu'effectivement, montrer du doigt le mauvais ado, c'est tellement plus simple que de remettre en cause sa politique sociale.
Bah oui, ils vont quand même pas scier la branche sur laquelle ils sont assis, alors qu'il faudrait couper l'arbre. Ouais, c'est le seul arbre qu'il faudrait couper, c'est celui-là. Alors, on l'aura compris, hein, Attal veut mettre la jeunesse au pas, hein, dans la continuité du SNU, hein, Service National Universel, du fantasme de l'uniforme qui effacerait toutes nos différences sociales, comme par magie, bien évidemment, c'est bien connu. Juste comme ça pour dire, même à poil, on voit les différences sociales.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
Faites l'expérience, si vous avez la chance, ou en tout cas l'envie de le faire, allez sur une plage naturiste, baladez-vous dans des lieux où on a le droit d'être à poil, on sent les classes sociales. Oui. Donc moi, tout ce truc
La tenue du corps, la façon de parler...
Mais oui, en fait, habillé ou non, les classes sociales... C'est bien ça va bien au-delà juste d'un vêtement ou d'un non-vêtement en fait, quoi.
Souvent quand vous avez je vais dire un truc, mais par exemple tu parlais d'être nu machin, et une des différences qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand vous avez le temps d'aller 6 fois à la salle dans la semaine, en fait c'est souvent que vous avez un boulot qui vous laisse le temps de le faire et les moyens de payer la salle, et à côté quand vous avez pas les moyens, ça se voit. Et vous voyez, ça même nu on voit les différences sociales,
bien évidemment. On oublie le vocabulaire,
la façon
les bagousses qui brillent,
exactement.
Enfin bref, dresser la jeunesse sans jamais s'interroger sur le monde, la société qui font la jeunesse, dans laquelle la jeunesse se construit, non, ne nous interrogeons surtout pas. Parce que quand même, ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment que la jeunesse est seule responsable. Rien d'autre, il n'y a rien d'autre. En même temps, pour cette classe de privilégiés qui ont eu ou auront le pouvoir dans les mains, c'est difficile de comprendre tout ça. Ça nécessiterait qu'ils et elles se sabordent. Parce que Bah, s'il y a des privilégiés, c'est qu'il y a des exclus. Hein ? S'il y a des riches, c'est qu'il y a des pauvres. Alors, ça peut vous paraître absolument idiot, ou très bête ce que je vous dis, mais c'est... L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Abattez, répartissez les richesses différemment. Ben en fait, peut-être qu'il y a certains mots qui vont pas disparaître, mais en tout cas...
Avoir moins d'impact.
Bah oui, en fait. Hein. Et parce que ben, s'ils veulent des soumis à l'autorité, hein, c'est qu'il y a donc des tenants de l'autorité qui soumettent les autres. Et je vous dis pas de quel côté est Attal, mais je vous le laisse deviner. Bref, en fait, tout ça est vraiment, vraiment politique, en fait. Et au sens noble, hein, pas parti, politique, la vie de la cité. Bref, hein, au-delà des annonces, dont il y a à dire, hein, développer encore et encore, on pourrait faire, je pense, 3 heures à peu près là-dessus, c'est aussi de son attitude, en fait, de sa position et de sa posture, dont j'avais envie de parler un peu ce soir aussi. Alors déjà, son... Je vous le rappelle, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ça, il l'a dit en fin janvier. Ouais, et en fait, c'est quoi déjà ce tutoiement aussi?
Bah,
en fait, il y a un truc vraiment, parce que je suis sûr qu'il ne s'adresse pas ainsi aux patrons pollueurs, hein, qui donc salissent, mais ne nettoient pas, souvent protégés par les élites politiques. Et il ne dit pas ça non plus aux patrons responsables de la mort de leurs salariés, qui, à mon avis, est un petit peu plus grave que, je ne sais pas, une vitrine brisée ou un banc cassé. Mais là, pareil, c'est bizarre, en fait. Hein, selon l'échelle sociale dans laquelle vous êtes, où vous êtes dans l'échelle sociale, le ministre vous tutoiera ou pas, ou s'il vous tutoiera parce que vous êtes...
Il vous méprisera.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on t'apprend... Moi, ce qui me choque le plus...
Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Ouais, c'est le... On t'apprend à la respecter. Ouais. Ça veut dire quoi? On t'apprend à la respecter. Ouais. Qu'est-ce qu'on met derrière ça, quoi, en fait?
Il y a vraiment un truc gros bonhomme viril. Quoi.
Juste comme ça, et je fais le parallèle, et je le fais volontairement, je vous invite à aller écouter le discours de la nouvelle année de Vladimir Poutine, quand il parle de l'autorité en Russie. Il emploie exactement la même rhétorique. Ah oui. C'est-à-dire, c'est là que c'est inquiétant. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, on a quand même quelqu'un qui a, donc c'était à la tribune de l'Assemblée, je crois qu'il a fait ce discours.
Ah oui, c'est ça.
Qui a une rhétorique, mais qui est quasi identique que celle d'un dictateur autocrate. Et en fait, personne se dit, là, en fait, il va un peu loin, hein, quand même.
Ouais, mais même, j'irais même au-delà, voilà. Enfin, même sans comparer, à un Poutine, parce que je veux dire, moi, Poutine.
Je veux dire, c'est ça, c'est dans le sens où on est dans une posture où l'État se donne le droit de te dire, je vais t'apprendre l'autorité.
Je pense que beaucoup de gens, majoritairement, baignent dans cette illusion que l'État est gentil et protecteur. Ouais. L'État n'hésitera pas à descendre sa population, qu'il soit sous l'autorité de Poutine ou sous l'autorité d'un Macron.
On est d'accord.
Ou de l'autorité d'un Hollande, où vous mettez qui vous voulez. Hein. L'État se défendra jusqu'au dernier souffle. En fait.
Il défendra ceux pour qui il est là pour défendre, c'est-à-dire les classes dominantes.
C'est tout à fait ça. Ou pardon, nous sommes peut-être un petit peu trop anarchisants. Alors bref, mais là comme dit, hein, j'en reviens sur son tu casses, tu répares, machin truc. En fait là ça concerne les jeunes, entre guillemets. Hein. Donc le tutoiement est de rigueur, hein, histoire de leur montrer qu'on les domine, qu'on les méprise si on le souhaite. Et lui, il le souhaite. Il souhaite mépriser les gens. Alors, je dis ça parce que c'est le même, en fait, qui a repris un jeune à Nice qui lui demandait « Macron, il est à Nice ?» Et Gabriel Attal qui lui répond « On dit Monsieur Macron et c'est comme ça pour tous les adultes. » C'est donc bien ça, en fait. Selon Attal, les jeunes, les non-adultes, on peut, selon ses propres codes, hein, de communication, bah, ne pas leur donner le même respect qui se situe, selon lui, hein, dans le « vous » et le « tu ». Et en fait, je me disais, bah, ça va vachement bien en fait, avec sa volonté de voir les élèves se lever quand un prof rentre en classe. Hein, tu te lèves, tu fermes ta gueule et tu te rassois quand le prof est là. Et c'est vraiment, il y a vraiment ce truc-là. C'est du mépris tout le long. Et c'est vraiment délicieux, évidemment, avec beaucoup d'ironie, hein, je le dis. Bref.
Ça fait beaucoup de bref.
Parce que vraiment.
Tu brefes beaucoup.
Oui, je pourrais. Mais puisqu'il y a tellement à dire.
C'est pour pas lancer une insulte, je crois que tu dis bref, en fait, c'est ça.
C'est tout à fait possible. On est, hein, là encore une fois, dans la formule, dans le paraître, dans la posture et surtout dans une conception particulière des rapports inter-individus. Parce que c'est ça, en fait, que
bah ça. Oui, c'est ça, clairement.
C'est ça que ça parle quand je vous dis ça, c'est juste. Ben en fait, c'est comment vous-même, dans vos esprits, comment vous voyez l'échange avec l'autre, en fait, qui est en face de vous. Quel que soit son âge, quel que soit son truc, ou même selon son âge, etc. Est-ce que vous avez plus de mépris pour un ado ou pour un enfant que pour un adulte? Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent, effectivement, à mon avis, s'interroger. Alors, il a le droit hein, d'avoir sa conception particulière hein, autour des rapports inter-individus. C'est juste, je relève ça parce que justement, il faut qu'on se rende vraiment bien compte, toutes et tous, que là, encore une fois, c'est politique. Notre manière de voir les échanges interpersonnels, etc., c'est hautement politique, vraiment. Bref, encore un, c'est aussi le fruit de notre vision de société, de comment on conceptualise tout ça en fait. Une autorité qui s'impose par la distance, par la soumission, bah, c'est juste un pouvoir supplémentaire, hein. Rien d'autre. Et bon, bah, vu qu'on n'aime pas beaucoup le pouvoir à la causerie, ça en fait toujours un de plus et un de trop, quoi.
Donc, non, je vais juste dire par rapport au mot autorité, parce que j'ai entendu Dupond-Moretti dire une énormité. Alors, Dupond-Moretti, il a dit l'autorité, c'est valable, et il a dit même en science, on parle d'autorité. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, il a oublié un truc, c'est qu'en science, on ne fait pas de l'autorité, on fait autorité. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on construit le fait de prouver que ce qu'on dit est vrai. Et c'est là qu'après, à ce moment-là, la majorité des gens peuvent dire « Ah, tiens, je suis d'accord avec toi ou pas. » Mais elle est toujours contestable, cette autorité en science.
Oui, alors c'est marrant que tu dis ça, parce que justement, alors je fais pas ça souvent, mais j'ai eu envie ce soir de citer un vieil anard, parce que je trouve qu'en fait, il donne un point de vue différent sur l'autorité, un point de vue anard, hein, effectivement. Et en fait, c'est Bakounine, dans son livre « Dieu et l'État », écrit en 1871, hein, qui écrit « S'ensuit-il que je repousse toute autorité. Loin de moi cette pensée. Lorsqu'il s'agit de bottes, j'en réfère à l'autorité des cordonniers. S'il s'agit d'une maison, d'un canal ou d'un chemin de fer, je consulte celle de l'architecte et de l'ingénieur. Pour telle science spéciale, je m'adresse à tel ou tel savant. Mais je ne me laisse imposer ni le cordonnier, ni l'architecte, ni le savant. Cette question de l'autorité renvoie en fait au mode de décision et d'organisation. Elle ne doit pas être confondue avec les compétences que l'anarchisme ne récuse pas, bien au contraire. Simplement, il ne leur accorde aucune valeur supérieure, intrinsèquement ou relativement, les unes par rapport aux autres en fait.
Ben c'est exactement l'erreur de Dupond-Moretti.
C'est ça, c'est voilà. Exactement ça.
Et ça corrige très bien. Et on n'avait pas préparé ce duo.
Non, pas du tout.
Non, mais vraiment pas.
On prépare pas les transitions et les échanges.
Mais c'est vrai, voilà. Et typiquement, on voit que ils mettent ce mot autorité à toutes les sauces, mais ils se plantent entre compétence et autorité, entre faire autorité et faire compétence, et c'est des choses très différentes. Oui. Donc ils font une espèce d'amalgame et qui est dangereux parce qu'en fait, ça va vite vers une vision totalitariste des choses. Oui. Et en fait, c'est là que ça commence à être dangereux vraiment.
C'est ça. Alors je vous parlais du Viry-Châtillon, etc. Là, je parlais aussi de l'internat de Nice. Là où ça a également donné lieu à une conférence de presse. Là encore, une honteuse démonstration d'autoritarisme viriliste et humiliante, et en plus mal jouée. Alors ça, c'est vraiment...
C'est vrai.
J'ai presque envie de dire c'est le pire. Non, je déconne, mais c'est vraiment...
Un peu quand même. Tout envie de dire, il pourrait faire un effort, quoi.
C'est tellement grotesque. Mais c'est ça qui est terrible, quoi. C'est tellement grotesque et des gens vont y gober, quoi.
Mais ouais.
Alors que ce sont juste des mauvais acteurs, quoi.
Attal en position...
Ah oui, justement,
écartées,
la scène, justement, la scène, hein, j'essaie de vous la décrire, Attal, hein, Dupond-Moretti, et autres, Christian Estrosi, par exemple, hein, qui est le maire de Nice.
Il y avait Ciotti aussi, non?
Il y a aussi le député et patron des Républicains, Éric Ciotti. Lui, de toute façon, dès qu'il entend autorité, qu'il voit des caméras, il est là. D'autres ministres hein, et de nombreux élus locaux, assis, donc, des caméras en face, et des ados assis avec eux, avec les politiques. Adolescents, hein, dont déjà je me pose réellement la question de leur consentement à être assis là, interrogé devant des caméras. Personnellement, je trouve ça juste hallucinant en fait. Parce que je me dis, c'est vrai que forcer des gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, c'est vraiment la plus haute preuve de respect du monde, quoi. En fait, non, ça s'appelle dégueuler et sur les gens, quoi. C'est les mépriser au plus haut point, quoi.
Et ils voulaient vraiment des images parce qu'ils avaient peur que des journalistes ne jouent pas le jeu. Et ils avaient pris une équipe du Premier ministre pour filmer.
Ok.
Voilà. Donc ils voulaient vraiment que les images existent. Et quand on fait ça, c'est souvent qu'on se dit, ça se trouve, il y a peut-être quand même des gens qui vont nous dire. Et il y en a eu, hein, d'ailleurs. Il y a eu des journalistes qui ont refusé de jouer le jeu, qui ont dit non, mais attendez, on va pas filmer ça, c'est ridicule, quoi.
Mais là, encore une fois, les jeunes ne sont pas une autorité à respecter. Ils ne représentent rien, on a le droit de les mépriser. En tout cas, Attal le pense ainsi et toute sa clique est avec lui.
C'est ce qu'ils font pendant une heure. Hein.
C'est exactement
c'est
ça.
C'est le mépris total, quoi.
Et justement, Attal, hein, de continuer, alors visage fermé. Hein. Vraiment, je vous invite, c'est insupportable, mais je vous invite réellement à regarder ce dont je vous parle. Il a le visage fermé, hein. Il est assis, les pattes écartées, mais on a l'impression que c'était une exposition de son service trois pièces, alors qu'il n'était pas là pour ça. Attitude pour moi viriliste au possible, hein, parce que vraiment, certains diraient du mansplaining, et c'est vraiment ça, quoi. C'est, on a l'impression qu'il étale ses couilles à la face de tout le monde, quoi. Bah non, en fait, on s'en tamponne, quoi, de tes burnes. Enfin bref, pardon. Et à interroger les ados présents. Alors, vous êtes contents d'être là? Il y a des ados, il y a un ado qui dit, bah non, en fait, moi, ma mère m'a forcé. Je voulais rester d'où je suis avec mes collègues, manger avec eux, rester dehors, etc., quoi. Il y en a un autre, c'est pareil, il a dit, ouais, ma mère, elle m'a menti pour venir ici. Alors, on peut aussi se faire une remarque, hein, c'est les mères.
Oui, bah oui.
Voilà, et on attend les pères, en fait, souvent, majoritairement, quand même, ils sont très souvent absents, quoi. Ils ont sûrement un aquaponais ou des trucs comme ça.
Ou ils sont barrés, hein.
Mais bien évidemment. Ouais, oui. Mais oui, si les hommes, avec un petit H, assumaient leurs actes, ça se saurait et ça changerait peut-être pas mal de choses. Enfin bref. Et donc, on peut se dire, ouais, en fait, sérieusement, tu veux que des individus, ados ou adultes d'ailleurs, hein, c'est la même chose, hein, qui sont à un endroit où ils n'ont pas voulu aller, dans une mise en scène qu'ils n'ont certainement pas décidé, souhaité, et tu aurais voulu qu'ils te répondent autre chose que non, vraiment.
Et dans un uniforme, mais d'une laideur.
Ah bah oui, mais l'uniforme, ça c'est la nouvelle mode.
Ah non, mais il est laid en plus, ouais, je dirais.
C'est la nouvelle mode.
On dirait des trucs de prisonniers.
C'est ça.
Vraiment.
Et voir Attal et autres Dupond-Moretti rire aux réponses des ados, là encore, c'est plein de mépris. C'est juste hallucinant, en fait. Et on voudrait, là encore une fois, apprendre aux ados le respect, mais commencer déjà à leur montrer que vous les respectez, en fait. Et je vous passe les coups d'épaule de Dupond-Moretti à un jeune qui voulait pas parler et que Dupond-Moretti voulait pousser à parler. Mais en fait, c'est ça. Ils comprennent déjà pas le consentement, en fait. Et ces gens-là, politiciens de haut vol, voudraient donner des leçons à la basse populace qui est idiote et mal élevée.
Oui, mais là, ils avaient le truc parfait. C'est-à-dire que tu as des jeunes réunis majoritairement masculins, majoritairement issus de l'immigration, comme on dit, je sais pas, ou au phénotype spécifique, comme je sais plus comment tourner mes phrases maintenant.
Oui, oui, oui.
Vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment un côté, regardez, on est en train de mater, et derrière, il y a tout un impensé colonial, tout un impensé raciste profond, qui est même pensé chez eux, je pense, en plus, mais voilà, mais qui donne cette espèce d'image du, regardez, l'ennemi intérieur. On le tient. C'est horrible parce que c'est une mise en scène, mais qui est dégueulasse, mais qui est à vomir. Et vraiment, alors je suis content parce que j'ai vu qu'il y avait des émissions qui, quand même, ont relevé ça en disant non, mais on en est où là, en fait, parce que c'est n'importe quoi et en plus, c'est stigmatisant. Et heureusement qu'il y a quand même encore des journalistes dans les médias qui ont repris en disant mais ça, c'est inadmissible, on franchit quelque chose qui est vraiment plus que dégueulasse. Mais franchement, il y a derrière tout ça vraiment un fond raciste, mais qui est assumé, il faut le dire, qui est, mais qui en plus est fait pour rassurer une part de l'électorat aller en gros récupérer des voix au Rassemblement National en faisant du Rassemblement National.
C'est ce que je disais, ce n'était qu'une opération de communication.
Et c'est vraiment dégueulasse.
Et je te rejoins, c'est ce que je me notais, c'est bref, on l'aura compris, hein, c'est la jeunesse, les jeunes sont la cible, presque l'ennemi intérieur, il y a vraiment quelque chose de ça, même si là encore une fois, il n'y a rien de neuf. Hein.
Non, vraiment,
je vous invite toutes et tous à remonter à, même il y a un siècle, la jeunesse était le même danger pour tous les politicards, quoi.
Le troisième texte imprimé par Gutenberg était un texte sur l'oisiveté de la jeunesse qui allait faire mourir le monde. Donc, vous voyez, c'est pas neuf. Mais on voit bien qu'en fait, la jeunesse, c'est toujours ce truc flou, hein, qu'est la jeunesse, c'est toujours le problème.
C'est
voilà.
Ça. Heureusement, effectivement, je te rejoins et je fais vite pour finir quand même. Heureusement, des syndicats, des assos ont réagi quand même à toutes ces déclarations. Ça va du syndicat de la magistrature au principal syndicat aussi des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. En passant aussi par l'UNICEF France, hein, je vous dis ça comme ça, ou encore la COFRAD, c'est le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, dont son délégué général Arthur Melon a déclaré, je le cite, « Certains discours, notamment ceux du Premier ministre, veulent nous faire croire que l'ensauvagement de la jeunesse se soignerait à coups d'uniformes et de bâtons. Or, la jeunesse est à l'image de la société dans laquelle on l'a fait grandir. » Il n'est pas question de balayer la responsabilité individuelle, mais, insiste le délégué, la société doit également s'interroger sur sa responsabilité collective.
Bah, c'est toujours le même problème. Hein.
C'est exactement ça, en fait.
Oui.
Qu'à cela ne tienne, hein, je parie sur le déni général et la stigmatisation de la jeunesse pour malheureusement encore un paquet d'années, parce que ça arrange finalement tout le monde, en fait. Mmh. Ça arrange majoritairement tout le monde, en fait, de se dire « Bah ouais, les jeunes, ils sont cons parce qu'ils sont cons. » Bah peut-être parce que votre monde, ou le monde dans lequel nous on vit tous et qu'on construit, bah il est juste dégueulasse en fait.
Moi j'ai plutôt une vision inverse de la jeunesse en général, mais c'est ce truc flou. C'est, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, je vais dire de moins de 25 ans, comme ça vous saurez de quoi je parle, qui en fait sont très conscients du monde dans lequel on est, qui sont très conscients du monde qu'on leur a laissé, et qui en fait sont dans une espèce de désespoir de l'avenir, parce qu'ils se disent mais en fait on va où? C'est-à-dire qu'en gros ils voient le dérèglement climatique d'un côté, ils voient le fait que on les méprise de tous les côtés, dans les médias, tout le monde, machin, ils voient qu'il y a une espèce de truc sur eux permanent, on leur fait porter sur les épaules,
oui, et puis ils voient qu'on méprise leurs parents, leurs grands-parents,
voilà,
et leur retraite,
donc je crois au contraire qu'ils sont extrêmement lucides, voilà,
pour une partie.
Et que donc du coup, je crois qu'on se trompe de diagnostic quand on pense que ils sont bêtes, parce que je pense pas qu'ils soient bêtes. Je pense qu'une grande majorité est lucide, et je pense qu'une grande majorité aurait même peut-être des choses à nous apprendre.
Ouais, voilà. Certainement. Et encore une fois, voilà. Je suis pas là pour idolâtrer la jeunesse.
Moi non plus, mais il faut échanger. Il faut pas être dans ce truc.
C'est ça. En fait, c'est des individus en devenir.
Exactement.
Et en fait, on les méprise dès le départ. Ben, vous attendez, vous étonnez pas qu'ils vous chient à la gueule, et heureusement, allez-y, hein, mais chiez à plein feu, quoi. Pardon, je suis devenu vulgaire. Il est temps que j'arrête.
Il est temps que tu dises bref.
Oui. Non. Je voulais quand même terminer en disant, bon, je vous avais quand même dit que j'étais pas le plus optimiste de la causerie. Vous en serez douté jusqu'ici. Mais voilà, c'est une confirmation de tout ça.
Non, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet important. Et je pense que ça rejoint d'autres sujets qu'on a fait dans l'émission sur la famille mononucléaire, sur tout ça. Et en fait, à un moment donné, je crois qu'il va falloir qu'on s'interroge aussi globalement sur l'aspect politique qu'il y a dans la construction sociale et sociétale de la société, et de ne pas simplement se dire que tout se résout à coup de slogan ou à coup de mais que c'est aussi à un moment donné par l'échange, le dialogue et la confrontation en fait qu'on fait avancer les choses. Et la confrontation étant dans les deux sens.
Et avant que les jeunes soient jeunes et que les enfants existent, vous avez aussi le droit de ne pas faire d'enfants. Non mais attends.
Vrai, oui,
je veux dire, il y a aussi des gens qui font des enfants parce qu'il faut faire des enfants.
Ouais,
ne les faites pas si vous en avez
pas envie.
Mais
ça fait partie du sujet sur lequel on reviendra.
On reviendra, oui, parce qu'il est déjà très tard. On passe à la zik. Allez, on y va.
Miaou.
Oui.
J'étais persuadé que j'y étais pris, mais je l'étais pas, non. Ça a pas toujours été, mais toi t'as toujours été là. T'étais la preuve vivante que la télépathie était fiable. Ouais. T'as toujours été le best. T'as toujours été le best. Et pas que ton espèce. Des jiguitors de crevettes fraîches. J't'ai rencontré, j'étais au plus bas, tu m'as monté en express. Les vétos m'avaient dit 7 jours. Finalement t'as vécu 16 belges. Je sais très bien qu'essayer tout piller va être putain de compliqué, mais je vais le faire. Comme t'as fait fermer leur gueule à tous les experts. Il était temps que je rende hommage à la bête. Dire que la veille de ton départ, tu ronronnais pareil. On dit que personne n'est parfait, mais toi t'y étais presque. T'as passé les plus belles années de ta vie à griffer des clubs. C'est à me faire croire que la mienne était belle. Ce qui était vrai, je me vois encore en train de te rapper mes textes. Pour moi, tout ça jamais décédé, c'est dead. T'as toujours été le best. Et pas que ton espèce. Des jiguitors de crevettes fraîches. Je t'ai rencontré, j'étais au plus bas, tu m'as monté en express. Les vétos m'avaient dit 7 jours. Finalement t'as vécu 16 berges. Je sais très bien qu'essayer d'oublier va être putain de compliqué, mais je vais le faire. J'étais persuadé que j'y étais pris, mais je l'étais pas, non. T'as toujours été le best. Et pas que ton espèce. T'as toujours été le best. Et ce bien avant qu'ils aient rebaptisé le grec. Tu tapais dans mes verres de lait quand j'étais Steph. Tu confondais ton Apache et la mienne. Bref, t'as toujours été le best. T'as toujours été le best. Et ce bien avant qu'ils aient rebaptisé le grec. Tu tapais dans mes verres de lait quand j'étais Steph. Tu confondais ton Apache et la mienne. Bref, t'as toujours été le best. T'as toujours été le best. Et ce bien avant qu'ils aient rebaptisé le grec. Tu tapais dans mes verres de lait quand j'étais.
et toi t'as toujours été là. T'étais la preuve vivante que la télépathie était fiable. Ouais. Ouais. T'as toujours été le best.
T'as toujours été le best.
Mais pas que ton espèce.
J'ai pas besoin d'aider, pas besoin de médecin. J'ai un chat. J'ai un chat. Gratte sur ma terrasse. Gratte sur ma terrasse. Les volets de mon chat sur les terrasses. Tout est rasta. T'es pas vraiment bête. T'es pas vraiment bestial. T'es pas vraiment bestial. Je suis entre la bestiole et l'animal de compagnie d'une mini panthère noire.
Et vous êtes encore à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et là, on vous a laissé terminer avec les petits ronronnements. Et alors, c'est un titre ultra surprenant, en tout cas pour moi. C'est le titre Le Best de Deddy, qui est un rappeur plutôt des fois un petit peu, on va dire, trash ou cash en tout cas, et qu'il a fait un titre en hommage à son chat. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique en fait, d'être des fois un peu une posture de dur, et en fait on arrive à craquer devant un petit, une petite boule de poils. Voilà. Qui des fois sont le best de toutes les espèces, quoi.
Ben ouais, tout
et ben voilà.
Et je confirme.
Et donc c'est Fab qui prend la suite. Et ouais. Toi tu vas nous causer d'une planète.
Planète 9.
Yeah.
Yes. Alors ben oui, j'avais envie de parler d'un truc parce qu'il y a les complotistes. Ils étaient un peu en PLS cette semaine. Ils sont les réseaux complotistes. Cette semaine ils ont trouvé une nouvelle raison de s'agiter. Alors bon, avouons qu'ils n'ont pas vraiment besoin de grand chose en général pour s'agiter. Mais qu'est-ce qui les a agite autant cette semaine d'un seul coup? Eh bien, on nous aurait menti et caché une 9e planète dans le système solaire. Et ce, sans doute, car elle serait une base, au choix, d'extraterrestres, de complexes militaires, bon alors qu'on n'arrive pas à Mars, mais a priori la 9e, hein, ou d'une source d'énergie continue et illimitée que certains voudraient garder pour eux. Voilà.
Là, tu dis sur le ton de la plaisanterie et tout, là mais, ce sont des vraies
mais le croire,
thèses complotistes
au
sujet de cette planète.
Je suis allé les lire.
Non, mais c'est pour les auditeurs et auditrices.
Oui, non, mais je suis allé les lire, vraiment, je suis allé lire leur forum, machin et tout, et leur Facebook et leur Instagram. Et ils croient ça. Donc, bon, ils ont voilà, il y en a qui croient en Dieu, ils croient en ça, mais bon, en tout cas il y a des moments je me dis oula, il y a du boulot, mais en tout cas voilà. Alors du coup je me suis quand même dit que comme une découverte récente effectivement permet de relancer la spéculation sur cette 9e planète et que c'est pour ça que les complotistes y s'agitent, j'allais en parler quand même dans l'émission pour expliquer pour ce que c'était que cette histoire. Alors la planète 9 en fait, oui, on l'appelle comme ça parce qu'elle a pas de nom, hein, donc planète numéro 9, donc planète 9.
Oui, et puis on peut aussi rappeler qu'il y a certaines quelques objets célestes, ils ont des noms, enfin c'est pas des
oui,
noms,
des noms
des prénoms, c'est des
ouais, des noms universels,
360,
ouais, tout à fait.
Machin.
Bon, alors on l'a appelé planète 9.
Voilà, ça se tient.
C'était bien, voilà. C'est une hypothèse en fait qui est très ancienne, contrairement à ce que pensent les complotistes. Donc j'ai déjà cassé un mythe, hein, l'hypothèse d'une 10e planète puis d'une 9e après qu'on ait déclassé Pluton, hein, parce que Pluton était trop petite pour être une planète, donc on dit « Ah mince, on s'est trompé !» Bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. C'est le principe de la science, c'est que ça se remet en question. Ouais, ouf, truc de fou. Donc la 9e planète, elle n'est pas du tout née hier. Hein. Elle date en fait, en réalité, cette première approche de 1983. Hein, alors ami complotiste, depuis 1983 il s'est passé des trucs mais tu étais pas là.
Ouais, c'est surtout internet était pas aussi
ouais,
là quoi.
C'est ça. Alors c'est dire en fait au moment où les moyens d'observation ont permis justement d'observer des objets dits transneptuniens. Alors les transneptuniens, c'est tous les objets qui sont après la planète Neptune et qui sont soit des planètes naines, des petites planètes comme Pluton qui est un objet transneptunien donc du coup ou des gros astéroïdes dont la rotation autour du Soleil est au-delà de l'orbite de Neptune, hein, donc comme je l'ai dit, c'est Neptune, je rappelle, étant la 8e planète, hein, en partant du Soleil. Voilà. Et la Terre, la 3e. Hein, tout va bien? Tout le monde suit?
Ça se passe bien? C'est bon.
C'est bien. Donc, quand cela était possible, hein, ces objets, ils ont pu être observés, mais surtout, leur course dans l'espace a pu être mesurée. Parce que je vous rappelle que dans les années 80, on a aussi l'invention de l'ordinateur, ce qui permet de calculer plus vite. Parce qu'on savait faire des calculs, mais c'était un peu, là, les calculs complexes avec l'ordinateur, ça s'est un peu simplifié. C'est vachement plus facile. Et c'est là qu'il y a eu un hic qui s'est produit. Alors, un hic en science, ça existe vraiment, hein, cette expression?
Okay.
Il y a un hic. En fait, ça veut dire qu'en gros, il y a un truc qui se passe pas. exactement comme on voudrait que ça se passe, comme on le prédit. Vous voyez ce que je veux dire? La prédiction en science, je vous rappelle, c'est pas une boule de cristal, c'est des calculs mathématiques. Hein. C'est pas le mec qui se met pas assis sur son bureau, il regarde la boule de cristal, il dit oh, ça va être là. Non, il a calculé où ça devrait être. En fait, ces objets auraient dû avoir une courbe simple, ce qu'on appelle une courbe simple, c'est-à-dire tourner autour du soleil selon une courbe ou une ellipse simple. Et en fait, bah, c'est pas le cas. Ils sont parfois ralentis par rapport à la vitesse attendue, ou ils ont parfois leur orbite qui est légèrement plus grande que prévu. Donc ils sont un peu plus loin du Soleil que prévu. Donc ils sont attirés par quelque chose. Mmh. Eh ouais. Elle est pas bête, hein. Donc voilà. Donc... c'est donc les mathématiques prédictives, c'est-à-dire ce qui permet de prédire les tout ça, bah, où ça tombait pas juste. Donc les scientifiques, ils se sont dit, bah, c'est bizarre, mais c'est pas logique. Donc si c'est pas logique, il faut que je trouve une raison, parce que tout est logique quand même au moment donné. Alors en fait, ils se sont dit, bah, l'explication la plus logique, justement, à ce phénomène illogique, bah, c'est qu'il y a un objet qui puisse avoir une attraction qui exerce la gravité sur ces objets. Donc c'est un objet forcément massif, parce que pour que la gravité d'un objet interfère sur d'autres objets célestes, il faut quand même qu'il ait une certaine masse, parce que c'est le principe de la gravité. Or, bah, le plus logique, hein, c'était que ce soit une planète. Bah oui, parce que, pour être clair, on pourrait dire, c'est, parce qu'il y a des gens qui disent, ça se trouve, c'est des gros amas de météorites. Il y a des gens qui ont dit, oui, mais il faudrait que les météorites, ils soient tous ensemble, en même temps, et qu'ils bougent dans le même rythme, avec la même vitesse, et bon, c'est un peu plus compliqué. Le plus logique, c'est une planète. Donc voilà. Donc, dès les années 80, eh ben, il y a une hypothèse qui dit qu'il y aurait une planète au-delà de Neptune. Tout va bien, hein, c'était, ça affolait personne, hein, je vous assure, c'était, ouais, c'est juste un constat. Mais en fait, c'est là que les complotistes vont encore plus se demander s'ils ne devraient pas ouvrir un livre d'astronomie de temps en temps, ça leur ferait pas de mal. L'hypothèse d'une planète lointaine, elle date en réalité, bah, de la découverte de Neptune elle-même. Et on a, bah oui, parce qu'on a découvert Neptune en 1846. Oui, c'est hier. Hein. Et bah pourquoi? Et bah parce qu'en fait, lorsqu'on observe les orbites de Neptune et d'Uranus, on se rend compte qu'ils sont légèrement perturbés. Et dès 1880, on s'en rend compte. C'est-à-dire quand on fait le calcul prédictif. Oui, à l'époque, on n'a pas d'ordinateur, donc c'était long de faire les calculs prédictifs. Donc, quand on arrive et qu'on se dit, tiens, Neptune devrait se trouver à tel endroit, paf, il est légèrement décalé. Mais pas beaucoup, mais un tout petit peu. Et la seule chose qui pourrait expliquer ça, c'est la présence d'un objet céleste au-delà de Neptune et un objet massif. Tiens, ça fait donc deux pistes pour dire qu'il y aurait sûrement une neuvième planète, vous voyez, voilà, ou quelque chose en tout cas de massif.
Oui.
En clair, les observations des objets transneptuniens depuis les années 80 ont permis d'affiner une hypothèse vieille de plus de 100 ans. Bah voilà. Et bah oui. Donc c'est dingue, hein, comme on nous a tout caché. Parce que la preuve, c'est qu'on est reparti d'une hypothèse de 1880. J'ai envie de vous dire. Bah, c'était vachement caché, l'histoire. D'ailleurs, en reprenant, hein, une méta-étude, parce que vous savez ce qu'est une méta-étude, on en parle souvent dans la causerie, mais je vais vous le dire quand même. C'est-à-dire, c'est l'agrégation de plusieurs dizaines ou centaines d'études sur un sujet. Donc en faisant une méta-étude de centaines de travaux d'observation de comètes et autres objets, parce que vous savez, les objets, ils passent autour de nous, et donc ils sont influencés par la gravité. Quand une comète passe près de la Terre a tendance à l'attirer vers elle. Pas de beaucoup, mais un tout petit peu. Donc ça change un petit peu, par exemple, la trajectoire de la comète. Et là, en fait, bah, quand ils ont repris toutes ces études, il y a une équipe internationale d'astronomes, alors ils étaient 65, hein, c'est pas six personnes dans un bureau, qui arrivent à la conclusion que certains objets, comme Sedna, alors Sedna, vous la connaissez pas, mais Sedna, c'est une planète naine qui est juste après Neptune. Okay. Voilà. C'est un objet transneptunien qui fait 1000 km de diamètre, à peu près. C'est costaud quand même, mais c'est pas très gros, mais c'est gros. Bah oui, c'est Hubble, voilà. Oui, à l'échelle de l'univers, c'est pas très gros.
Oui.
Voilà. Ces objets, ils semblent croiser régulièrement un gros objet céleste par là-bas. Du côté de Neptune, d'après Neptune. Alors, quand on dit après Neptune, c'est loin, hein. Je vous rappelle, il y a Neptune, et après il y a la ceinture de Kuiper, et entre les deux, il y a des centaines de fois la distance Terre-Lune, hein, la distance Terre-Soleil. Non, je dis une bêtise. Il y a des centaines de fois la distance Neptune-Soleil. Donc en fait, c'est loin. Il y a de la place pour qu'il y ait la planète. Donc, on est parti à la chasse à la planète. Bah oui, c'est ça qui est intéressant. On s'est dit, bah, elle aurait dit non. Bah, elle est où? Alors je vais préciser une chose. En science, tant que l'on n'a pas observé, on parle d'une hypothèse. Bah oui. Donc, pour l'heure, cette planète numéro 9 est une hypothèse. Parce qu'on l'a pas encore vue. Mais c'est pas une opinion comme j'ai pu le lire sur les trucs des complotistes. C'est pas un gars qui s'est dit un jour ou une nana qui s'est dit qu'il y a une neuvième planète.
Ils ont déjà des éléments qui amènent à penser que...
C'est-à-dire qu'une hypothèse scientifique, ça s'appuie sur des recherches, des calculs, et c'est démontré. C'est-à-dire on dit, bah, tiens, on pense que ça pourrait être ça, parce que quand je fais les calculs pour arriver à ça, j'ai cette preuve-là, vous voyez, où bah, justement je vois que ça s'est dévié, donc ça s'appelle des preuves scientifiques. Et c'est ce qu'on appelle le faisceau de preuves qui finit par faire une hypothèse. Voilà. Donc maintenant, l'idée est de trouver cette planète. Et récemment, des astronomes de la Caltech, alors Caltech c'est la technologie, c'est l'Institut de technologie de Californie, d'où Caltech, où les Américains ils aiment bien. Ouais, California Technology Institute, ils aiment bien les trucs un peu comprimés. Ils ont continué à observer les objets dits transneptuniens, parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est une bonne piste. Voilà, parce que bah, oui, chaque chercheur cherche aussi un petit peu ce qu'il a envie. Hein, donc, voilà. Et ils ont remarqué, pour au moins 6 d'entre eux, hein, des variations d'orbite. Donc c'est quand même pas mal, parce que 6 objets qui sont déviés, ça commence à faire quand même pas un bon petit faisceau de preuves, vous voyez. Mais ils sont allés plus loin. En triangulant les variations des 6 objets, alors là, tout le monde dit, oh, c'est quoi trianguler, tout ça? Bah, c'est ce que fait un bateau, vous savez. Oui, c'est normal qu'on se pose la question, même moi je me la suis posée. Mais en fait, vous prenez un bateau. Quand il fait le sextant, vous savez, il regarde l'horizon, il regarde le truc, et il regarde où il se trouve. Bah, il fait un triangle. Ça s'appelle trianguler. Oui. Ça permet de mesurer les distances. Voilà. D'où le nom trianguler. Donc, en triangulant, parce que c'est le verbe qui va avec, ils ont pu déterminer dans quelle zone du système solaire la planète se trouverait potentiellement. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, voilà. Mais le problème, c'est que c'est vaste.
C'est ça, c'est qu'à l'échelle dont on parle, là, c'est... Bah,
la zone, c'est vaste.
C'est pas à l'échelle d'un terrain de foot, quoi.
Ouais, voilà, c'est-à-dire, quand vous triangulez dans un bateau avec un sextant et que vous visez un phare, en général, vous voyez à peu près où est le phare. Bon, là, quand vous visez dans l'univers, ça fait vite des millions de kilomètres carrés, voire des milliards de kilomètres carrés à couvrir. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais c'est ça qui est nouveau. On va pouvoir tenter d'observer la planète, parce que comme on voit à peu près la zone où elle devrait se trouver, eh ben, ça va permettre de pouvoir la chercher. Donc, Constantin Battingin, pardon, et son collègue Mike Brown, ils sont maintenant certains, c'est les deux qui ont mené l'étude, la vérification sera possible, et pour eux, on devrait trouver une planète. Mais comme ils le disent, si on n'en trouve pas, bah c'est pas grave, faudra trouver ce qui dévie les objets. Dans tous les cas, il y a un truc à trouver. Mais en tout cas, pour eux, leur conviction personnelle, comme ils le disent, et ce qui leur hypothèse déposé, c'est une planète. Mais lui, si c'est pas une planète, c'est qu'il y a autre chose. Mais
oui, c'est que dans tous les cas, il y a un élément qui...
Il y a un élément qui fait dévier, donc il faut trouver ce que c'est. Ce qui leur a permis de trouver ça, c'est la capacité informatique actuelle et notamment les intelligences artificielles. Parce qu'ils ont permis de créer une simulation du système solaire externe, c'est-à-dire ce qui se trouve entre Neptune et la ceinture de Kepler, pour essayer de comprendre comment générer les motifs observés. Alors, les motifs, bah, c'est les variations qu'ont les objets célestes. Ils ajoutèrent donc en fait une 9e planète, voilà, en ajustant son orbite et sa masse, qu'ils avaient calculé précédemment. Ils se sont dit quelle masse, voilà, et quelle orbite ferait que ça dévie de tant de pourcents, alors c'est des dixièmes de pourcents, hein, voire des millièmes de pourcents, l'orbite de cet objet. Donc voilà. Et donc ils ont tout déterminé que c'était une masse qui était de 10 fois celle de la Terre et une orbite elliptique comme celle de la Terre. C'est pas rond en fait, c'est une ellipse. Voilà. Et cette planète, elle permettrait d'expliquer, finalement, c'est la seule explication mathématique qu'ils ont trouvée, qui expliquerait les motifs mystérieux, entre guillemets, et je mets des guillemets à mystérieux, des orbites de Sedna et Biden. Voilà. C'est eux qui ont mis le mystérieux entre guillemets, c'était pour rigoler, parce que c'est pas un mystère. Ainsi, donc les chemins suivis par d'autres astres à l'extrémité de la ceinture de Kepler ont aussi des variations identiques. Et quand on met dans le modèle, eh ben, ça marche pour les 6. Okay. Donc il y a quand même de grandes chances ce soit ça. Et eux-mêmes, ils n'en revenaient pas. Ils le disent, ils s'attendaient pas à ce que ça marche. Et quand ils ont trouvé le modèle, oh ma main, ça marche. Donc voilà, ben, c'est une bonne nouvelle. Hein, mais voilà. Mais alors, pourquoi on la voit pas? Parce que ça, je vous vois venir, ami complotiste. Je vous vois venir.
Ami complotiste.
Voilà. Oui, c'est ironique. Vous allez m'écrire pour dire oui, mais s'il y a une planète, on la voit pas. Comment c'est possible? Alors, si cette 9e grosse planète existe vraiment, elle est si lointaine et si peu lumineuse qu'il n'est pas surprenant que l'on n'ait pas encore détecté.
Bah ouais.
Alors je vous rappelle qu'une planète, c'est lumineux parce que ça renvoie la lumière du soleil.
Oui, hein, c'est ça.
Ça s'éclaire pas tout seul.
Et si elle est hyper loin.
Bah oui. Mais je vous rappelle par exemple que Pluton, on a du mal à la voir au télescope. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est très loin. Donc voilà. Donc, je vais citer Greg Logling qui disait elle va être imperceptible, vraiment, vraiment imperceptible. Vous voyez, Greg Laughley, il est connu parce qu'il est à l'université de Californie à Santa Cruz, et c'est un homme qui calcule en fait la luminosité des planètes. C'est son métier, voilà. Et il a calculé que Pluton pourrait briller 10 000 fois plus fort que la nouvelle planète.
Ok, alors que Pluton est déjà très difficile à observer.
Et ouais, donc du coup il dit bah ça va être un peu compliqué, voilà, parce que c'est lié en fait à la diffusion de la lumière. Comme en fait on s'éloigne énormément, la ceinture de Kuiper par exemple, vous ne la voyez pas parce qu'elle est très très loin. Mais c'est pareil quand vous mettez une ampoule, puis vous éloignez de l'ampoule, bah au bout d'un moment vous n'êtes plus éclairé. Bah c'est pareil en fait, c'est le même principe. Donc les astronomes qui la recherchent, ils vont avoir non seulement besoin du coup de télescopes extraordinairement puissants, mais aussi de savoir où regarder. Alors savoir où regarder, c'est bon, ça ils l'ont. Ben non, est-ce qu'on a le télescope ? Eh ben, il vaut mieux, parce que ça revient quand même à rechercher un tout petit point de lumière en mouvement dans une vaste mer d'étoiles. Hein, ouais, c'est ça qu'ils vont chercher. Mais il y a un outil qui peut être utilisé. Eh non, c'est pas le James Webb. Ça marche pas à tous les coups. Non, c'est le télescope Subaru qui se trouve à Hawaï. Et en fait, lui, il est à la hauteur parce qu'en fait, à Hawaï, il y a un ciel, ce qu'on appelle un ciel parfait. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut zoomer extrêmement bien, extrêmement puissamment, et qu'il est équipé en fait de lentilles qui lui permettent de zoomer énormément. Et donc, eh ben, ils disent, on va peut-être arriver à déterminer et trouver cette planète. Et la probabilité passe de 0 à un peu plus que 0, comme ils disent, mais ça veut dire que ça grandit. Non, mais c'est une façon de rire, parce qu'ils sont très drôles dans leur article que j'ai lu, où ils essayent quand même aussi de dédramatiser en disant oui, bon, bah, de toute façon, on espère la trouver, mais après, voilà, on fait avec les moyens qu'on a. Donc la planète, si elle existe, elle sera environ 10 fois plus lourde que la Terre, hein, soit environ 3 fois plus grosse. Pour, voilà, si elle est tellurique, c'est-à-dire si elle est dure comme la nôtre. Ce serait donc soit une super Terre, ça c'est les planètes qui font 3 fois la Terre, c'est ce qu'on appelle les super Terres, soit ce qu'on appelle une mini Neptune. Un Neptune, je vous rappelle, c'est pas dur. Voilà, c'est gazeux. Donc voilà. Donc c'est un type de planète en fait qu'on trouve dans plein d'endroits dans le reste de la galaxie, ailleurs que dans le système solaire. Et on a vu en fait, bah chez nous, il y en a pas beaucoup dans notre région. Donc les scientifiques là aussi se disent, mais c'est étrange, parce que ce qui se reproduit comme schéma ailleurs dans la galaxie, il y a pas de raison que ça se fasse pas dans le système solaire. Donc il y a des chances que ce soit effectivement une planète de ce type-là. Voilà. Alors même pour aller plus loin, ils pensent même qu'elle a été formée au tout début du système solaire et qu'elle a été éjectée. Parce que vous savez, comme tout était en rotation rapide, elle a pu être éjectée et partir plus loin. Et que bah ça arrive, hein, et c'est prouvé dans d'autres systèmes, et après tout, ça a pu tout à fait se produire au début de la création des planètes dans le système solaire, et que bah voilà, elle est allée se balader plus loin que prévu, entre guillemets. Voilà. Donc, comme elle est très 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 loin, quand même, d'après les simulations, le point le plus proche du Soleil de cette planète serait à 200 à 300 fois plus éloigné que celui de la Terre. Ça nous met pas à côté. Voilà. Et son point le plus distant, il serait aux limites du système solaire, c'est-à-dire entre 600 et 1200 fois la distance Terre-Soleil.
Wow.
Voilà. Donc, vous voyez, elle est loin. Donc, il va falloir aller... voilà. Et amis complotistes, on n'a pas encore inventé de fusée pour aller là-bas. Voilà. Donc, il n'y a pas de base militaire.
Ouais, parce que sinon, si c'était le cas, on aurait pu dire aux militaires de tenir une petite lampe de poche,
ouais, coucou,
qui nous fasse des...
en morse, tu sais, pour nous dire en faisant planète 9.
Bah, qu'ils construisent un phare ou quelque chose, quoi.
Voilà. Alors est-ce qu'on va la trouver ? Parce que c'est ça la vraie question. Ben en fait, rien ne le dit.
Oui, en fait, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non.
Ben en fait, le problème qu'ont les gens avec la science, c'est qu'en fait, quand on a une hypothèse, et ben des fois, on met des dizaines, voire des centaines d'années à prouver qu'elle est vraie. Alors, je vais te donner un exemple. On vient de finir aujourd'hui, là, il y a quelques mois, de prouver toutes les théories de la relativité d'Einstein. Et Einstein, la théorie de la relativité, c'est 1905.
Ouais.
Et on est en 2024. Donc vous voyez, il a fallu quand même quelques années, parce qu'il fallait qu'on ait les outils pour. Voilà. Mathématiquement, on savait qu'Einstein avait raison, c'est-à-dire, ou potentiellement raison, on va dire. Voilà. Et quand on l'a démontré, en fait, on a démontré que c'est... Mais en prouvant ça, on a démontré aussi que Einstein avait tort sur plusieurs taux de théorie.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il
n'y
a pas un jeune chercheur, ou peut-être même pas chercheur d'ailleurs.
Si, si, c'est un jeune mathématicien.
Qui avait démontré qu'en fait, il y a un truc sur lequel Einstein s'était planté.
Eh bien, il a fait une erreur parce qu'il ne voulait pas admettre que le quantique existait à l'époque, ouais, parce que chaque chercheur a aussi ses limites, et lui il disait oh, l'intrication quantique, j'y crois pas trop, voilà, il avait le droit, hein, tout à fait. Et en fait, eh ben, les théories d'Einstein, à un certain niveau de très 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 petit, elles deviennent fausses.
Okay.
Et c'est les intrications quantiques qui deviennent vraies. Et en fait, eh ben, tout ça pour démontrer ça, encore une fois, ça veut pas dire qu'Einstein avait tort sur le reste, mais pour démontrer ça, il a fallu plus de 100 ans. Donc en fait, peut-être que pour trouver cette planète, eh ben il va nous falloir chercher encore quelques années, et c'est pas grave parce que c'est le principe de la recherche. Vous voyez, c'est le voilà. Et si on la trouve, eh ben en fait, ce sera enfin une vieille hypothèse qui serait confirmée, une hypothèse qui date de 1880. Tout va bien. Et puis bah après, il restera un truc très très important, lui donner un nom, parce que planète 9.
C'est pas, super.
Pas très fun.
Non, je trouve ça pas très personnel.
Donc voilà. Voilà, mais je voulais juste recadrer et puis dire aux complotistes juste une chose. Continuez. Parce que vous m'amusez.
Ouais, le problème, c'est qu'ils font
mais
des
vous me
dégâts,
faites aussi un peu peur.
Non, mais ils font des dégâts, hein, franchement.
Ouais, mais.
Et que le problème, c'est que dans tous les cas, je pense que si une personne aux tendances complotistes devait t'écouter, dans tous les cas, je pense qu'elle ne te donnera jamais raison.
Ah non,
parce
mais
que de toute façon, le complotisme, c'est comme les croyances religieuses.
Ah bah oui, tout à fait.
Il faut bien beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de raison et de réflexion et de débat et de confrontation pour pouvoir oser la remettre en question. Et pour moi, le complotisme, on est dans le même dogmatisme, en fait. Voilà, quoi.
Mais en tout enfin, cas. Bref. Mais en tout cas, pour les gens qui pourraient être
curieux
ou autour ou abordés par des gens qui ont des théories du complot, j'avais envie ce soir de rectifier sur ce qu'était cette planète 9 et qu'on arrête un peu d'avoir des fantasmes et peurs alors que c'est juste, juste une découverte qui pourrait être super sympa mais qui ne va pas changer grand chose. Voilà.
Yep, on passe rapidement.
Allez, c'est parti, musique. êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et comme j'ai parlé de la planète 9, et ben j'avais envie de ressortir un vieux titre des années 80, parce que j'aimais bien cette période qui collait bien avec le côté space opéra, vous voyez. Et là, c'était Leda. Et Leda, elle était ouest-allemande, pardon. Et elle a fait un titre qui s'appelait Endless Race. Et voilà, et c'était, je vous invite à aller voir le clip. Il est futurologique.
Ok.
Attends, j'allais y aller. Donc, 1er mai.
Ah oui,
oui. Oui, parce que donc du coup, là, cette semaine, c'est le 1er mai. Donc à Lyon, ça démarre place Garibaldi à 10h30 pour normalement une manif qui devrait finir place Bellecour. Et puis il y aura aussi un cortège rouge et noir qui ira jusqu'au repas de Radio Canu, place Satonnet. Voilà, et donc on va parler aussi du repas de Radio Canu. Donc Radio Canu vous invite à un repas au 1er mai, place Satonnet, à partir de midi. Midi et demi. Et il y aura le fameux punch de Radio Canu comme chaque année. Et donc si tu peux amener un petit truc à grignoter, c'est cool parce que c'est.
On n'a jamais pensé à filer des clopes aux gens parce que finalement c'est cool quoi.
Oui, donc voilà. Je ne ferai pas de commentaires. Et donc il y aura aussi normalement si possible de la radio en direct fait sur la place Satonnet. Vous pourrez donc voir des équipes de Radio Canu faire leurs émissions ou des bouts de leurs émissions. Alors par contre, on vous le dit, causerie, nous on n'y sera pas. Et désolé, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Donc vous pouvez venir. Et puis si vous voulez aussi découvrir Radio Canu et les locaux, ils seront sûrement ouverts parce qu'il y aura du monde de Radio Canu sur la place. Vous tapez sur l'épaule de quelqu'un de la radio et vous dites ah, je voudrais bien voir comment c'est la radio. Normalement, ils sont sympas, ils vous amènent. Normalement. Puis s'ils sont pas sympas, vous nous envoyez des noms.
Voilà. Oui, et tout en disant qu'elle reste peut-être ouverte et en même temps, faut pas non plus oublier que les fascistes ne jouent jamais
Je me suis mal exprimé. Elle peut être ouverte. Je veux dire, quelqu'un de Radio Canu a les clés, donc elle peut être ouverte. Je me suis mal exprimé, pardon.
Ok, voilà pour le rendez-vous du 1er mai. Et nous, on va vite fait vous rappeler, parce qu'il est quand même déjà très tard. Pour joindre la causerie, c'est toujours par mail à lacausericanu@gmail.com. Lacausericanu@gmail.com. Le podcast de cette émission et de toutes les dernières, les 519 précédentes et les 500 suivantes, on ne sait pas.
Peut-être.
Ça ferait long.
On verra.
On verra. C'est à se retrouver évidemment sur le blog de l'émission. C'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie où vous tapez la causerie Radio Canu blog et vous devrez tomber sur nous.
Oui, et ça fait pas mal de tomber sur nous.
Non, on est assez grassouillés pour bien vous.
Vous
pouvez amortir votre chute.
Enfin, on parle pour nous, pas pour Clara.
Oui, on ne parle qu'en présence de présent. Quoi. Et évidemment, le podcast, vous le trouvez aussi sur différentes plateformes.
Plateforme, allez, plateforme.
Arrête, il est déjà tard. Plateforme de différentes
podcasts. Ouais, voilà, tu vas chercher dans les podcasts, balado diffusion, on est sur toutes les plateformes normalement.
Ça, et
si tu ne trouves pas, tu nous envoies le nom de la plateforme où on n'est pas. Merci.
C'est ça. Et on continue de remercier toutes celles et ceux qui peuvent nous partager. Et c'est merci parce que c'est.
Cool. On se découvre des fois dans des endroits où on n'imaginait pas être.
Fait plaisir. Ça veut dire qu'en tout cas, ce qu'on peut des fois dire dans nos micros ou que je peux des fois vomir dans mon micro. ça vous parle et c'est tant mieux. Enfin, sinon on resterait chez nous et on se parlerait juste en tête à tête.
Juste pour préciser qu'on se donne rendez-vous dans 15 jours.
Ah ouais, c'est vrai.
On n'est pas là la semaine prochaine.
Oh oui, c'est vrai.
Bah oui.
Et bah oui. J'en profite pour faire un bisou
à notre Marseillaise préférée.
À nos Marseillais.
À nos Marseillais préférés.
Voilà.
Auprès de qui on sera.
C'est ça. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, effectivement. T'annonces le dernier titre, Fab ?
Dès que je me souviens de ce que j'ai mis.
C'est moi alors.
Harry Belafonte, oui, avec Jump on the Line.
Yes.
Parce que j'avais envie qu'on se quitte avec un petit peu de joie parce que vu ce qui flotte depuis plusieurs jours sur Lyon, ça fait du bien.
Ouais, c'est ça. Et donc nous on vous donne rendez-vous dans 15 jours, je sais pas combien on sera le 11 peut-être.
Oui, ça sera quelque chose comme ça.
Le 12 même.
Non, ce sera même le 12,
ouais c'est ça.
Je te confirme.
Le 12 mai à 22h sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien et on se quitte en musique évidemment. Portez-vous bien, ciao, bisous.
Des bisous, salut.
Work, 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 Sinora, work your body liner. Work, work, like it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, 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 Sonora, shake your body line. Whoop! Shake, 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 Sonora, shake it all the time. Work, 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 Sonora, work your body line. Work, 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 Sonora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango waltz or the rumba. Sonora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoop. Shake, 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 Sonora, shake your body line. Shake, 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 Sonora, shake it all the time. Whoop, 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 Sonora, work your body line. Yes. Whoop, 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 Sonora, work it all the time. Sonora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay. I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body on time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body on time. Shake, 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 Sonora. Shake your body line. Work, 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 Sonora. Work it all the time. Dance, 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 Sonora. Dance it all the time. Work, 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 Sonora. Work it all the time. Sonora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, 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 Sonora.